Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, dixième pour cette saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Manuel Garcia.
Bonjour.
Vous êtes écrivain aujourd'hui, vous écrivez des livres après une carrière dans la gendarmerie nationale. On va revenir là-dessus dans une troisième partie. Mais on aime bien aussi, au moment de Noël, recevoir des écrivains locaux. Ça nous permet d'abord de rappeler qu'ils existent et puis de rappeler aussi qu'il y a des maisons d'édition locales ou régionales. La vôtre, c'est Tédéo à Poyestre, je crois, dans les Pyrénées-Orientales.
Oui.
De rappeler qu'il y a des gens qui se battent sur le terrain et qui, parfois, réussissent pas si mal que ça. On y reviendra dans l'édition locale, Manuel Garcia. Le sommaire, alors évidemment, Michel, le grand Johnny, comment peut-on faire autrement? D'autant plus que ça t'inspire un certain nombre d'analyses et de réflexions. Après quoi, on reviendra sur du traditionnel contre-regard, les métropoles et leurs effets sur les territoires avoisinants. Des effets, on laisse le suspense, on n'en dit rien. Et on terminera cette émission par le prix de l'humour pour François Hollande, décerné par des médias nationaux, mais on verra qu'à Radio Barque, on a une façon de l'attribuer qui est aussi particulièrement singulière, si je puis dire. Alors, là, évidemment, Johnny Hallyday et tout le phénomène médiatique et l'engouement et l'émotion que ça suscite.
Oui, Jean-Claude, parce que tous, autant que nous sommes, enfin, je parle pour toi et pour nos auditeurs, qu'ils me pardonnent, mais on a tous un peu de Johnny, fait au fond du cœur.
Ben, ça fait partie de ces gens avec lesquels on vit, qu'on le veuille ou non, depuis 50 ou 60 ans, bien sûr.
En tout cas, il appartient à ma génération. Il est mort ces derniers jours, et il a 74 ans. J'en ai, allez, tant pis, je donne mon âge, 70, ce qui veut dire que je le connais et que nous avons traversé d'une certaine manière, à travers la vie de ce personnage, pendant l'histoire de notre pays, de ces mutations à la fois économiques, culturelles, en fait, et politiques, que d'une certaine manière, à sa façon, en fait, il incarnait. Et c'est pour cela qu'il a, de mon point de vue en tout cas, que son image et ce personnage a atteint ce statut de ce qu'un un philosophe et un éminent sémiologue avait intitulé les grandes mythologies faites françaises. Il fait partie effectivement de ces mythes français, c'est-à-dire de ces personnages qui représentent en fait une image, en fait une sensibilité qui dépasse largement la personnalité même, en fait, de l'individu qui les incarne.
Oui, on est dans le mythe, la légende.
Dans la légende.
On est presque dans l'au-delà, voilà, si je puis dire.
C'est un homme, en fait. C'est vrai, il était grand, il était beau, en fait. Il vient d'un milieu extrêmement populaire, abandonné par ses parents, en fait. Il a traversé les Trente Glorieuses, cette période de l'histoire de France qui a vu l'accès, en fait, à un certain nombre de services et de biens.
Et il est arrivé dans le show business à un moment historique aussi, où tout ça se met en place au début des années 60.
J'insiste sur ces aspects un peu sociaux, tu me permettras d'y revenir, en fait, Jean-Claude. C'était une époque où toute une grande part, en fait, des classes populaires de ce pays ont accédé à des biens et des services qu'ils n'ont pas connus, qu'ils ne connaissaient pas, la guerre, l'avant-guerre, etc. L'arrivée de nouvelles machines, en fait, dans la maison, l'accès, en fait, à l'eau chaude. En fait. Moi, j'ai vécu ces moments-là.
C'est pas Johnny qui a inventé l'eau chaude,
mais,
quand même.
Non, mais il est né artistiquement pendant cette période-là. Et puis, il a introduit en France, justement, cette nouvelle culture de la société de consommation à travers le rock'n'roll, en fait, traduit à la française. Et puis après, il a traversé le mouvement de 68 à sa manière aussi. Bref, c'est quelqu'un qui incarnait à la fois la nostalgie des Trente Glorieuses et qui, en même temps, représentait une certaine sacralisation du rebelle, en fait, de celui qui est contre, effectivement, un système, mais sans le contester dans ses principes, quoi.
Oui, c'était en sachant en jouer aussi du système.
Non, mais peut-être. C'était le, Quand j'étais jeune, je me souviens des bousons noirs. À quel point mes parents, mes propres parents, en fait, quand ils prononçaient cette expression, les bousons noirs qu'incarnaient à cette manière.
Oui, ils en frémissaient.
Ils en frémissaient, en fait. Et leur hantise était que j'en porte un jour de bousons noirs et que je leur demande un jour aussi d'avoir une moto, ce qui était largement au-dessus des moyens de mes parents. Je me suis contenté d'une petite mobilette que j'ai achetée par mes propres, effectivement, pour travail pendant les vacances scolaires. Je ferme la parenthèse. Donc, Johnny Hallyday, c'était tout ça, quoi. Et ce qui m'a stupéfié, je dois le dire ici, pour apporter un regard un peu différent de ce que j'ai pu lire, entendre et voir, en fait, hein, à la radio, en fait, et sur nos ondes télévisuelles. Moi, ce qui m'a stupéfié, c'est l'étonnement d'une grande partie de nos dirigeants face à cette immense émotion collective qui a traversé le pays.
Ça, c'est comme... le syndrome de la tour d'ivoire chez nos dirigeants, c'est pas nouveau.
Oui, on a pu assister à des phénomènes de même nature, en fait, hein, notamment en Angleterre, au moment de la
Là, il y a un parallèle à faire avec la mort de Lady Diana et l'épisode de la reine d'Angleterre qui avait pris ses distances et puis qui est revenu vers le peuple sur les conseils du premier ministre de l'époque, Tony Blair. Donc, ça nous ramène à ce phénomène-là.
Oui, hein. Et je me disais, mais voyons voir, si nous n'avions pas eu un jeune président de la République, Emmanuel Macron, très jeune, quoi, hein, au pouvoir, quelle aurait été la réaction de certains représentants d'une classe politique, en fait, qui est au pouvoir depuis des lustres, en fait, je pense notamment à cette hypothèse, hein, à savoir François Fillon élu. Est-ce qu'il y aurait eu cette réaction de la classe politique qui a bien, notamment à travers la personnalité de Macron?
Je ne le pense pas. Elle aurait été forcément
je ne le pense pas.
Différente et plus distante.
Plus distante, plus discrète, et qui montre à quel point, j'insiste là-dessus, en fait, nos élites sont enfermées dans une vision du monde et dans un rapport surtout aux classes populaires, en fait, et à leur ressenti qui est manifestement un problème dans notre pays, et que cette émotion collective aujourd'hui démontre de manière quasiment parfaite, quasiment pure. Je ne crois pas, moi, à la théorie de la manipulation des masses par les télévisions, en fait, par les journaux, en fait, etc.
Ben
je
ça, crois même, ça se fait qu'on le veuille ou non.
Je crois même, je suis même persuadé que s'il n'y avait pas eu cette reprise, ce mouvement, en fait, hein, des masses médias, en fait, sur ce cas et sur ce phénomène.
Ah, il y aurait un phénomène spontané de la
part
des femmes.
Il y aurait eu une incompréhension totale de la part, effectivement, de tous ces gens qui participeront, en fait, samedi, en fait, en très grand nombre, en fait, à cette manifestation d'hommage, en fait, à la journalité, en l'accompagnant sur la plus belle avenue du monde. Je rappelle au passage, quand même, pour bien montrer l'importance de l'événement, hein, qu'il n'y a eu qu'une seule personnalité dans l'histoire de la République française, hein, dont les funérailles se sont déroulées le long de la avenue, c'est Victor Hugo en 1800. En 1800 combien déjà ?
Dans les années
85. Exactement. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que, on a là, à l'évidence, démonstration, en fait, physique, effectivement, qu'il y a là, dans cette mort de Johnny Hallyday, quelque chose qui va au-delà de la personnalité de cet immense artiste, car c'est un artiste aussi, qui est de l'ordre du rapport, en fait, d'un peuple à un certain nombre de personnalités chez lesquelles ils ont le sentiment qu'elles représentent quelque chose qui leur appartient au plus profond, en fait, de leur âme et de leur cœur.
Oui, on peut appeler ça la culture si on veut. Hein,
ça, quand même, en fait, Jean-Claude, j'aurais tendance à penser que s'il y a de la stupéfaction chez un certain nombre de nos dirigeants, c'est parce qu'ils, peut-être, hein, ils se sont rendus compte aussi à travers cet événement que jamais, au grand jamais, ils ne pourraient jamais atteindre ce lien si particulier qu'ils attachent effectivement ceux qu'ils sont censés administrer.
Ouais, mais là, si je puis dire, ils ne boxent pas dans la même catégorie, c'est tout à fait différent. Mais Victor Hugo nous fournit presque le pastiche nécessaire. Après la légende des siècles, il y a la légende du demi-siècle qui vient de s'écouler. Et puis, autre remarque, ce qui est curieux, c'est que Macron a tout de suite pigé le phénomène, alors que Monsieur Macron, quand il est né, Johnny était déjà bien, bien en route. C'est-à-dire oui, il a moins vécu le phénomène, par exemple, que des gens qui ont notre âge, Michel.
Oui, certainement. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que ce garçon, en fait, Johnny Hallyday, cet homme, en fait, ce mythe, maintenant, était quelqu'un qui a traversé l'histoire de France depuis plus de 70 ans et qu'il a touché toutes les générations, en fait. Chez moi, en fait, on écoutait Johnny Hallyday. En fait, mon fils a écouté aussi Johnny Hallyday. Ce n'était pas ma référence, en fait, hein, ma référence, comment dirais-je, artistique dans ce domaine en particulier. J'écoutais Ferrat, j'écoutais Brel, j'écoutais Léo Ferré. J'écoutais aussi, en fait, Johnny Hallyday.
De toute façon, avant de marquer la pause, on conclura là-dessus. Même si on ne l'écoutait pas, on l'entendait. De par une présence massive dans les médias. Et c'est peut-être ça qui fait que ça devient incontournable à un moment. Ça a marqué absolument tout le monde, y compris ceux qui ne l'aimaient pas.
Mais une seule question, en fait, quel est l'artiste d'aujourd'hui qui peut remplir le Stade de France?
Voilà.
Ou quel est l'artiste qui peut rassembler sur les Champs-Élysées plus de 100 000 spectateurs?
Eh bien, on pose la question.
On pose la question, mais il n'y a pas de réponse.
Et on marque une première pause.